Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé à la veille d'Halloween, on va consacrer une large partie de cette émission à la sortie du film Flow, qui sortira mercredi dans les salles. À cette occasion, la réalisatrice Géraldine Danon, ainsi que les comédiens Stéphane Caillard, Samuel Jouy, mais également Marilyn Canto et également Alexis Michalik seront nos invités. Et ils seront tous accompagnés de Philippe Poupon. Un grand honneur pour nous de recevoir toute cette équipe. Et puis, on va également parler de Candice Renoir. Ce soir, un épisode spécial Halloween vous attend sur France 2. Son héroïne Cécile Bois va venir nous en parler. Et puis Eleanor Bernheim sera à l'affiche de Mort sur la piste. Elle va partager ce film avec Jason Priestley. Alors là, tout un symbole évidemment pour elle, fan de Beverly Hills. Elle va venir nous en parler. Le film sera diffusé samedi soir sur France 2. Et puis on va parler de Sophie Cross sur France 3. Le grand retour demain pour une deuxième saison inédite. À cette occasion, son héroïne Alexia Barlier va venir nous en parler. Et puis le couple terrible d'Ici tout commence, Tom Darmon et Margot Aguilar, eh bien vont être également nos invités pour nous parler de leur rôle mais également de leur projet. Et en exclusivité podcast également aujourd'hui pour notre ligne onécoutelatélé.com, on va parler à l'occasion de la sortie de Flo de Vent d'Espoir. À cette occasion, Corentin Millet et également Hugo Véron, les producteurs du film Vent d'Espoir sur la voile à La Rochelle, vont être nos invités avec nous. Et puis également aujourd'hui, deuxième coup de cœur ciné en exclu podcast sur Le Théorème de Marguerite qui sort mercredi au cinéma également. Nous aurons le bonheur de recevoir Anna Ovion, la réalisatrice, accompagnée de Julien Frison de la Comédie Française et de Jean-Pierre Daroussin. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre spécial coup de cœur cinéma aujourd'hui consacré à Flo qui sort mercredi dans les salles. Quel bonheur d'avoir toute une partie de l'équipe aujourd'hui avec nous dans Chut, on écoute la télé. On va commencer par la réalisatrice Géraldine Danon. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
L'héroïne de ce film, Stéphane Caillard, qui interprète de façon magistrale Florence Artaud. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis Alexis Michalik, un habitué de l'émission qu'on est très heureux de retrouver, dont vous pouvez voir d'ailleurs son dernier film en VOD, DVD, Une histoire d'amour, qui est d'ailleurs un film incroyable qu'on a eu la chance de promotionner l'année dernière avec toi, mon cher Alexis. Ça va bien?
Tout à fait, ça va très bien et merci du coup de promo.
Merci d'être là tous les trois parce que c'est vraiment, on va avoir Marilyn Canto, Philippe Poupon et Samuel Jouy qui vont nous rejoindre aussi dans un instant. C'est un film qui nous a vraiment marqué, qui a été la fin du festival d'Angoulême en août dernier. Ça a été, je crois, mais une ovation du public. Et moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais qu'on apprend des choses, Géraldine, et qui peut mieux que vous faire ce film?
Je crois que la mise en scène est affaire de point de vue et effectivement, Florence était mon amie, donc c'est mon point de vue sur elle. J'ai essayé de la raconter au plus proche de ce que j'ai ressenti d'elle, d'une amitié, une longue amitié, puisque je l'ai rencontrée dans les années 80 et qu'on a eu de cesse que de se suivre et d'être très proches tout au long de nos vies. jusqu'à ce qu'elle disparaisse tragiquement dans cet accident d'hélicoptère. Donc oui, il est vrai que j'ai essayé d'apporter un éclairage profond et intime sur cette femme tout à fait exceptionnelle, extrême à tous les égards, je dirais, et ce grand marin qu'elle était.
C'est une destinée tellement hors du commun, on peut être que bouleversée par son histoire. Elle aurait dû mourir 3 fois. Et c'est dans cet accident d'hélicoptère, dans une émission de télé, c'est quelque chose qui nous a tous profondément, en tout cas, touchés de voir cette destinée de cette femme. Stéphane, quand on s'apprête à incarner une femme avec une destinée pareille, c'est un cadeau pour une comédienne.
Et Florence Artaud, et aussi le scénario construit autour et sur Florence Artaud, était un défi absolument fascinant et excitant. Et voilà, il y a la femme qui était Florence Artaud, et il y a l'histoire que raconte Géraldine. Et les deux ensemble, ça fait un portrait de femme qu'il était très excitant de réussir, mais de me mettre à l'épreuve de cette chose-là.
Épreuve, ça devait être un tournage éprouvant quand même, hein, parce que Stéphane est sur tous les plans, et effectivement ça a dû être quand même un tournage par moments difficile.
Eh bien, ça l'a pas été tant que ça en fait, ça a été une 60aine de jours de tournage assez merveilleux, je dois dire, et quand bien même on affrontait que ce soit l'élément principal qui était la mer, et qui est toujours assez imprévisible, donc travailler sur la mer... représente à la fois des difficultés et des moments assez gracieux, mais l'ensemble du tournage a été vraiment sous une bonne étoile. Et puis on avait un capitaine en tant que Géraldine, qui était profondément porteur et qui nous a emmenés dans son point de vue, dans son histoire. Donc voilà.
Alexis, Olivier de Kersauzon, plus vrai que nature.
Oui, merci.
Avec le phrasé, les mimiques, il y avait tout. Hein.
C'est vrai. Alors le phrasé, c'est enfin les textes que vous entendez, c'est évidemment le scénario de Géraldine, mais en tout cas le but, c'était de pas décevoir, parce que c'est vrai que de tous les marins, c'est pas celui qui a le plus gagné de courses de loin, hein. Mais en revanche c'est le plus connu à cause des livres qu'il a écrits, à cause de sa notoriété, à cause des grosses têtes, à cause de tout ça. Et c'est vrai qu'il incarne un peu le marin tel qu'on l'imagine aujourd'hui, un peu bourru mais avec de l'esprit, puis avec un vrai lettré quoi, donc pas un imbécile. Bon, c'était un défi aussi, hein, mais c'était comme on disait tout à l'heure, un beau cadeau de la part de Géraldine de nous offrir ces rôles-là.
T'appréhendes le retour qu'il peut te faire ou pas ? Peut-être il te l'a déjà fait.
je sais pas si j'appréhende plus que Géraldine. T'appréhendes pas du tout ? Non, mais quand même, il l'a pas vu encore en tout cas. Donc on verra ce qu'il en dit.
Parce que si on le connaît, pour ne pas être langue de bois, effectivement, Olivier de Kersauzon, quand même. Géraldine, est-ce qu'il y a des difficultés particulières, justement, parce qu'on disait avec Stéphane, mais il y a beaucoup de scènes en mer, les éléments, faut faire avec toute une équipe de tournage. Il y a dû y avoir des moments, des fois, quand même.
Comme le disait Stéphane, c'est vrai que c'est un tournage intense, hein, puisqu'on a pas mal de scènes en mer, bien que je tiens à le préciser, ça reste quand même un portrait de femme. On a pu avoir quelques retours maintenant, 2 jours avant la sortie, le film a été vu par quelques personnes, notamment en tournée. Et je sais que même les gens qui n'aiment pas la voile ou qui n'aiment pas le bateau aiment le film, parce qu'ils s'y retrouvent tous dans l'histoire absolument romanesque, comme vous le disiez, et extraordinaire de cette femme au destin si particulier. Donc oui, ça a été un tournage intense, mais je dirais qu'il y avait une très belle énergie de la part de toute l'équipe, de tous les acteurs, et que je me suis sentie portée à tous les égards, et portée aussi par la jolie étoile de Florence qui veillait sur nous. Donc je ne me souviens que du bon, et c'était un tournage gracieux.
C'est ça que je me dis. Vous qui avez été si proche d'elle, Géraldine, quand vous avez mis en boîte vos premières prises, vos premiers rushs avec Stéphane devant la caméra, vous vous êtes dit quoi à ce moment-là ?
Ah ben c'est vrai que plusieurs fois, quand je voyais Stéphane derrière ce qu'on appelle le combo, le petit écran vidéo, j'avais les poils qui se dressaient sur mes bras, parce que j'avais vraiment l'impression de retrouver Florence dans les intonations, dans le visage, dans la façon de vivre les choses. Je voyais Florence, c'était l'objectif, c'est pour ça que j'ai choisi Stéphane. Je savais qu'elle avait encore une fois cette grâce, cette puissance, cette
ressemblance aussi.
Cette ressemblance, mais c'était pas forcément ce que je cherchais au début. Je dirais que la ressemblance, elle est venue petit à petit en rentrant dans le film, aussi de par les cheveux, le maquillage, bien qu'on en ait très peu, mais je crois que Stéphane s'est fait habiter par Florence à mesure que le film avançait. Non, ce que je voulais, c'était vraiment ce paradoxe entre une grande force et une extrême fragilité, parce que c'était aussi ça qui définissait Florence et qui, je crois, définit en règle générale les grands champions.
Et c'est, on voit tellement de facettes de Florence Artaud dans le film, que ça soit des fois son côté excessif, rebelle, amoureuse de la vie. Enfin, on y découvre mais des facettes assez incroyables et dont nous, des fois public, on soupçonnait pas du tout. Stéphane.
Bah, moi, jusqu'à la lecture du scénario et jusqu'à toute la période de documentation, je le soupçonnais pas forcément non plus de manière évidente. Moi, je connaissais l'icône que ça a été, icône féminine, grande sportive, icône branchée, enfin, c'est tout ce que j'avais en tête. Après, j'ai découvert, voilà, que c'était quelqu'un de plus extrême que ce que je pouvais imaginer, que ce soit dans ses trajets de vie, cet accident de voiture, et puis finalement repartir en mer, puis finalement les accidents en mer, et puis c'est une vie dense, et une femme qui, je crois, ne s'est pas interdit beaucoup de choses et qui a vécu en fonction de ses désirs, de ses peurs. Et voilà, c'est un vrai beau portrait dans toute la complexité.
Quand on s'intéresse, comme Stéphane l'a fait, moi je l'avais fait avant, puisque effectivement c'était mon amie, donc je lisais tout ce qu'elle écrivait. Quand on s'intéresse à sa vie, on s'aperçoit que je n'ai rien inventé au-delà de ma perception d'elle. Elle a écrit toutes ces choses-là. Elle a beaucoup laissé de traces. Elle a beaucoup parlé d'elle. Elle s'est beaucoup racontée dans les livres, à la radio. Et c'est vrai que ça a été même la difficulté quand je me suis intéressée au scénario, a été tranchée dans sa vie pour en ressortir les épisodes qui me paraissaient les plus représentatifs de ce que j'avais envie de montrer d'elle. Tellement il se passe de choses et tellement elle en raconte.
Mais en 2 heures, on ne voit pas le temps passer. Hein. Le film dure plus de 2 heures, je vous garantis, vous ne verrez pas une minute passer. Tellement, voilà, c'est dense, c'est rythmé, justement, et puis on découvre tellement plein de choses à la minute que voilà, c'est ça qui est hyper intéressant. Quelque chose qu'on ne savait pas trop quand même, c'est cette relation qu'elle entretenait avec Olivier de Kersauson pendant un bon moment, hein, mine de rien.
Alors, le grand public ne le savait pas, mais les marins le savaient. Hein. C'était pas un secret qu'ils se sont vus et qu'ils ont beaucoup compté l'un pour l'autre, en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, on découvre ça. C'est aussi une adaptation du bouquin de Yann Kefelec. Ensuite, Géraldine a pris sa liberté également, même s'il a travaillé sur le scénario. Et puis, ça reste évidemment un film, donc c'est pas un documentaire. Donc, les dialogues, au final, appartiennent aussi à la plume de Géraldine. Mais il en reste cette histoire d'amour entre deux marins qui sont confrontés à leur nature de marin. Et leur nature de marin, c'est d'aimer la liberté, c'est d'aimer le large, c'est d'aimer la mer. Et ça, c'est pas forcément compatible avec la vie de famille. Donc c'est ce qu'il en résulte quand on voit le film. N'empêche qu'ils ont tous les deux le verbe haut, ils ont tous les deux un caractère bien trempé et que les scènes sont à la hauteur de ce qu'on peut espérer, je pense.
Ça donne des scènes d'anthologie d'ailleurs entre vous deux. Si vous avez une petite anecdote à nous raconter, peut-être quelque chose d'assez drôle qui a pu vous arriver sur le tournage, parce que voilà, on raconte quand même le portrait d'une femme, on va dire riche dans toute sa splendeur, mais voilà, peut-être qu'au tournage vous avez eu besoin de décompresser de temps en temps, ou est-ce qu'il y a des scènes qui ont été un peu drôles à tourner ? Géraldine.
Alors, oui, Alexis qui décortique une langoustine. Moi, vous savez,
la vue était belle, hein.
Ma direction d'acteur, elle passe beaucoup par mettre les gens dans un état. Donc, vous avez pu vous apercevoir des scènes entre tous les marins à l'époque, parce que c'est aussi, il est aussi question de ça dans ce film, de joie, de fête, parce que c'était le cas. Hein. Je sais pas si ça l'est toujours, peut-être moins, j'ai l'impression, mais à l'époque, quand tous ces marins se retrouvaient, c'était
la fête,
absolument. Ils se retrouvaient chez le docteur Lerouzic à la Trinité, voilà. Donc, pour chauffer tous ces jeunes gens qui venaient interpréter les acteurs en question, il m'arrivait de rester tard le soir avec eux et on partageait des moments aussi joyeux que ce qu'on peut voir à l'écran. Voilà, c'est vrai que moi je considère que la direction d'acteur, pour moi en tout cas, passe d'une part par le choix de mes acteurs, donc par le casting, et après par l'état d'esprit, l'ambiance qu'on met sur un tournage et peut-être avec chacun d'une façon différente pour les amener à la couleur qu'on souhaite voir à l'écran. Donc vous qui avez vu le film, vous avez vu toutes les couleurs qu'il y a. Ça veut dire qu'on est passé un peu par tous les états. Et puis la grande anecdote qui reste, c'est vraiment, enfin qui n'est pas une anecdote, mais le grand moment d'émotion, c'est l'arrivée de la route du Rhum. Où là, en plus, il se trouve que ça s'est tourné dans la chronologie, donc on était tous épuisés comme Florence quand elle arrivait à ce moment-là, et où on a eu une sorte de magie. Les figurants étaient complètement fous. On avait l'impression qu'ils accueillaient Florence Artaud pour la deuxième fois. Le bateau, le vent était parfait. Il y avait
les alizés étaient dans le bon sens.
On avait vraiment une bonne étoile. Encore une fois, il y a une sorte de magie qui a opéré sur cette scène et qui, je crois, se ressent à l'écran, si j'en crois ce que me rapportent les gens.
En tout cas, la belle étoile s'appelle Florence Artaud, ça c'est sûr. Je pense qu'elle a dû veiller sur ce tournage, elle a veillé au grain. Stéphane, un souvenir particulier?
Quand ils m'ont laissé en haut du mât.
Quoi? Mais c'est pas possible, combien de temps?
Non, mais ils m'ont bien laissé une petite heure, quoi. Le temps que le drone arrive, ça restera ma sensation personnelle.
La vue était belle.
Quelqu'un m'avait quand même laissé sous-entendre que je risquais de me faire scalper si j'étais trop près du mât, quoi, donc... Je suis partie avec vraiment de grandes espérances en haut. Et voilà, un grand moment de solitude. Bon, j'ai parlé toute seule, j'ai invectivé, j'ai... Voilà, ça restera un gros souvenir.
Voilà, quand vous verrez justement voilà, dans le film Flo, Stéphane au bout du mât, vous verrez de quoi on parle. Pour toi, Alexis.
Moi, un seul, ce serait difficile, mais c'est un film où on a beaucoup voyagé. Donc on a été en Bretagne, et puis on a été en Afrique du Sud, puis on était en Guadeloupe, donc ça c'était un véritable bonheur de se retrouver à tourner là-bas. Et moi j'avais pas les scènes de Stéphane, puisque je faisais pas de voile dans le film en tout cas, mais j'avais une ou deux scènes sur un bateau à moteur, et notamment une qui a l'air de rien, hein, juste on accoste tous les deux sur une petite plage, et vraiment quand on voit le plan, ça dure 4 secondes, sauf que bah on était tous les deux dans le bateau, il y avait des rochers à droite et à gauche, il fallait que je sais plus porter le panier de poissons, relever le moteur, essayer de pas se planter dans le rocher. Allez, moteur, action. Et puis bon, heureusement, on n'a pas pété le bateau, mais voilà, c'était un petit peu ce genre d'ambiance sur le tournage où parfois c'était allez, on y va, on tourne, c'est maintenant. Donc c'était aussi une petite forme d'aventure, quoi. Mais c'était, au final, tout s'est bien passé, c'était un bonheur.
Bon, juste avant d'accueillir Marilyn Canto, Samuel Jouy et Philippe Poupon, on va parler juste de vos projets pour terminer. Stéphane, bientôt cinéma, théâtre, télévision, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses dans lesquelles on va vous voir bientôt?
Je suis en ce moment au théâtre Marigny, dans la pièce de Ruy Blas, mise en scène par Jacques Weber. Voilà.
Pour toi, Alexis?
Moi, j'ai un prochain spectacle qui commence en janvier au théâtre de la Renaissance, et ça va s'appeler Passeport.
Peut-être prochaine adaptation cinéma, on ne sait pas.
Peut-être, mais j'aimerais bien que le prochain film que je fais, si j'en réalise un autre, ce soit pas une adaptation, mais une nouvelle création, histoire de pouvoir investir un nouveau projet complètement.
On sera là, en tout cas pour toi, Alexis, évidemment. Géraldine, est-ce qu'il y a d'autres projets, du coup, maintenant que ce film va appartenir au public dans 2 jours?
Oui, moi je travaille à l'adaptation d'un livre de Mélissa D'Acosta qui s'appelle Les femmes du bout du monde et qui se tournera en Nouvelle-Zélande, je pense, en août ou en septembre.
On a bien voyagé en même temps, hein, sur les tournages, c'est bien. Hein.
C'est mieux.
Effectivement. Allez, on va écouter la bande-annonce Flo, ça sort mercredi dans les salles, et juste après, eh ben, on revient avec la seconde partie de l'équipe. Merci Géraldine, merci Alexis, et merci Stéphane, à bientôt.
Merci,
au revoir.
Merci beaucoup.
J'arrive de Paris, je suis venue voir les bateaux, je suis venue voir la mer.
Je vous présente
Florence.
Ça te dirait de traverser l'Atlantique avec moi?
Tout est nouveau pour moi. La terre ne me manque pas.
En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant, ta priorité.
Je repars en mer.
Tu les as, les muscles du vent, les nerfs du froid.
Papa, ta fille est un marin.
Je vais faire la Whitbread. Pas de gonzesse à bord, rien, quoi.
Tu te barres sans moi à l'autre bout du monde, c'est ça?
T'es en train de me jeter, là!
Y a pas de gonzesse à bord, y en aura jamais. C'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles.
Vraiment le malin quand il me verra grimper sur le podium.
Ne bougez pas, dans un instant, on continue notre spécial flow dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Mes amis, nous allons vivre
et vivre fort intensément, à ne regarder que devant. Vivre à plus de 100 000% en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être sans oui, mais attends. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh, mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésion, sans être abruti de calme, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent, le reste est vain, inconsistant, qu'un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Salut, moi c'est Béatrice Delaboulet et j'écoute chaque semaine Alain Jeanne dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et on continue notre spécial flow. On va accueillir Philippe Poupon qui nous a rejoint. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Marilyn Canto. Merci d'être avec nous, Marilyn.
Bonjour, merci.
Et Samuel Jouy aussi qui est avec nous. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Merci d'être là tous les trois. On va continuer à parler de flow. On a planté un peu le décor évidemment avec Géraldine, Stéphane et puis Alexis. Marilyn, alors toi tu joues la maman de Florence Artaud dans le film. Qu'est-ce qui t'a plu d'abord dans le projet? Comment t'as abordé ton rôle? Comment tu t'y es préparée en tout cas?
Mais ce qui m'a plu dans le projet, c'est Géraldine et Florence. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait une telle sincérité, une telle authenticité dans le désir de Géraldine de raconter cette aventure et cette femme, que moi, j'ai été très vite séduite par la détermination qu'elle avait à raconter, la détermination de cette femme. En fait, les deux forces conjuguées, j'étais sûre que ça ferait un film puissant. Et voilà, donc ça, c'est la première chose. Et c'était déjà dans le scénario. Et ensuite, elle m'a proposé ce rôle et j'ai voulu participer à l'aventure, j'ai voulu participer à ce film parce que je trouve que cette mère, elle est touchante, elle est discrète et à la fois elle est très aimante et très près de sa fille malgré tout, quoi. Même si on sent qu'elle a peur pour elle, mais qu'à la fois elle lui dit d'y aller, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur cette aventure. Et Géraldine m'a parlé de cette femme qu'elle connaissait, elle m'a montré des documents, des photos, il y avait des vidéos aussi. On voyait cette femme accueillir sa fille à la route du Rhum, on voyait l'explosion de joie, l'incroyable émotion que c'était, et rien que ces images-là, c'était déjà un film merveilleux, c'était déjà un film d'une puissance folle. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai eu envie d'y participer.
Quand on incarne effectivement la maman d'une femme avec ce destin incroyable, on en parlait il y a un instant, mais encore on le rappelle, c'est cette femme a un destin hors du commun, elle aurait dû mourir trois fois, et elle a survécu, on aurait dit que la mère l'a protégée quasiment en permanence. C'est ça qui est assez dingue quand on regarde le regard justement porté sur ce destin par Géraldine et, évidemment, et toute l'équipe. Alors Samuel, Jean-Claude a été un peu le premier grand amour de la vie de Florence, hein, mine de rien.
Son premier amour, et puis surtout le premier homme à lui faire traverser l'Atlantique. Donc c'est, j'imagine, une étape très importante dans son parcours, une étape sentimentale et aussi la révélation de l'amour pour la mère.
Alors justement, cette révélation, oui, il est un peu brut de décoffrage quand même, hein. quelque part, ils s'entendaient bien quand même tous les deux sur ces points-là, parce que les deux étaient quand même un peu à couteau tiré, ces deux personnages qu'on voit en tout cas dans le film.
Oui, bah que ce soit la véritable Florence Artaud ou le personnage incarné par Stéphane Caillard, on a l'impression que en face il faut pas une toute petite chose. Donc oui, il est un peu brut de décoffrage. Il y a l'époque, il y a une autre culture, d'autres mœurs, et voilà. Ça raconte aussi toute une époque. C'est les années 70.
Comment tu te prépares un rôle comme ça ? On regarde des vidéos, justement, on s'interdit. On regarde des reportages sur Florence Artaud, sur sa vie, on se documente, on lit des livres sur elle. Ou au contraire, on s'interdit justement ça pour avant le tournage, du moins, pour essayer de garder un peu la fraîcheur et essayer d'être le plus fidèle du scénario écrit par Géraldine notamment.
Non, ça dépend de chaque tournage. Moi, celui-là, en l'occurrence, j'ai lu le livre de Jean-Claude Parisi. Il a écrit un livre. Ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis senti beaucoup de points communs avec lui. Et voilà, je suis parti comme ça un peu à l'instinct. Et puis après, j'ai fait confiance à Géraldine, aux situations, et puis à la magnifique actrice qui était en face de moi.
Elle est incroyable, Stéphane, on lui a dit il y a un instant. On va revenir avec vous aussi sur le cadeau que ça peut être pour des comédiens, justement, d'avoir un tournage un peu itinérant comme ça, ou en Afrique du Sud, en Guadeloupe, et en France aussi. Mais ça, c'est souvent des cadeaux pour des comédiens de pouvoir ne pas tourner tout au même endroit de cette façon-là. Mais on va revenir un peu avec Philippe aussi. Philippe, vous l'avez bien connu, Florence, évidemment. Quel regard vous portez sur le film de Géraldine, là, aujourd'hui? Et j'imagine l'émotion que ça peut vous procurer de voir ce film aujourd'hui.
Oui, parce que c'est la vie de Florence, et tout est vrai dans ce film. Tout est rempli de l'émotion, de son combat, de vouloir faire de la voile. C'était pas facile, on le voit dans le film. Elle n'arrive pas à embarquer sur la course autour du monde. Après, il y a des difficultés de trouver des sponsors pour courir les transatlantiques comme la route du Rhum. Donc, on a ce combat qu'avait engagé Florence dans sa vie. Elle voulait certaines choses, entre autres la voile. Elle voulait gagner des courses, hein. Et elle a réussi. Donc, c'est pas par hasard qu'elle a réussi à gagner cette route du Rhum. C'est par sa volonté, sa passion. Et puis dans ce film, on voit sa vie amoureuse. Elle était amoureuse de la vie, elle était amoureuse des hommes. Donc on trouve toute la saveur et l'émotion. C'est vrai que bon, je suis pas le seul à avoir eu des larmes en voyant ce film. Donc non, je trouve que c'est une réussite. On y voit très bien la mer. Moi, je suis très critique sur les images de mer, mais là, je crois qu'on pouvait pas rêver mieux.
Géraldine avait un bon consultant là pour les images de mer, hein, Philippe?
C'est sûr. Géraldine, ça fait presque 20 ans qu'on est ensemble. On a beaucoup navigué, donc elle a aussi toute l'ambiance de la mer, toute la saveur. Elle connaissait bien Florence aussi, donc je crois qu'elle avait toutes les qualités pour faire ce film.
Peu mieux qu'elle, en tout cas, effectivement, pouvait faire ce film. On va parler justement donc du cadeau que c'est pour vous, justement, comédien, de pouvoir tourner dans plusieurs endroits. Si je me souviens bien, beaucoup de tournages en Afrique du Sud, peut-être pour toi, Samuel, et en France, hein, pas en Guadeloupe du coup.
Non, mais je les ai accompagnés en Guadeloupe. J'ai eu la chance.
Tant qu'à faire.
Voilà, tant qu'à faire. Afrique du Sud et Newport, ça devait être aux États-Unis. Pour pas spolier les images, je vais dire que c'est aux États-Unis. Mais moi, il y a eu un petit recadrage de décor, on va dire.
Magie du cinéma.
Voilà, magie du cinéma, mais c'est à Newport. Et Étretat, qui est pas très loin, mais qui est sublime. En hiver, surtout, comme on était, c'était vraiment magnifique. Hein. J'en garde un très bon souvenir d'Étretat.
Marilyn ?
Oui.
Guadeloupe et France, hein, pour le personnage, hein, de la maman.
Guadeloupe et France et Bretagne aussi. Et oui, évidemment, c'est surtout que ça avait du sens, en fait. C'est-à-dire la route du Rhum, je parlais de l'arrivée ou je parlais du départ et tout ça, que ces lieux dans les lieux réels, ça donnait un sens incroyable au film, et je vois pas comment elle aurait pu faire autrement. Et ça, voilà, ça nous, les acteurs, ça nous porte, en fait, puisque ce sont les décors sur lesquels ces choses ont eu lieu. Donc ça nous inspire tout de suite. On est tout de suite, on a tout de suite envie de jouer. C'est ça aussi. C'est pas tant voyager. Évidemment, voyager, c'est agréable, mais c'est aussi que ça avait du sens et que, ça donne une vérité au film, un côté presque documentaire au film qui fait que le film est puissant, je trouve.
On va revenir sur vos meilleurs souvenirs à tous les deux. Philippe, vous avez été sur le tournage un petit peu? Beaucoup? Ou pas beaucoup?
Pas beaucoup, parce que, je me suis occupé du trimaran. Donc je suis pas allé en Afrique du Sud, et un endroit que j'adore. Et j'avais un rôle, c'est de que ce bateau, donc le Pierre Ier, c'est vraiment le bateau avec lequel Florence a gagné la Route du Rhum, bah, que ce bateau soit dans le film. Alors il a fallu qu'on aille le chercher très loin aux Philippines, qu'on le ramène en France, qu'on le remette en état et qu'on lui redonne cette parure dorée qu'avait voulu Florence, qu'elle avait quand elle a gagné la Route du Rhum. Je me suis occupé de ce bateau pour qu'il existe. Il est très beau dans le film. Il y a des images que Géraldine a réussi à faire qui sont superbes. Donc c'est un film où il y a de la mer, et tant mieux, parce que les films de mer sont très difficiles à faire. Et là, franchement, je suis très critique. Là, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup, et même sur le expérimental, sur le bateau avec Jean-Claude Parisi. Enfin, il y a pas que le Pierre Ier, il y a d'autres bateaux. Donc il est très complet, et maritimement, ben, c'est une réussite.
Il y a beaucoup de scènes de terre aussi, parce qu'on disait c'est avant tout un portrait de femme, donc vraiment le film, allez le voir, parce que vous allez découvrir tellement de choses peut-être méconnues que vous ne connaissez pas ou vous savez pas de Florence Artaud. Nous on a appris plein de choses en voyant ce film, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est avant tout un portrait de femme, donc c'est accessible vraiment à tous, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, allez le voir, ça sort mercredi au cinéma. On termine par vos projets et puis peut-être votre souvenir avant, votre meilleur souvenir à tous les deux, Samuel et Marilyn, de tournage.
Je pense que voilà, non, c'est la Route du Rhum, l'arrivée. Vraiment, c'était fou parce qu'on avait l'impression de la vivre, que c'était la réalité et qu'elle arrivait. Il y avait énormément de figurants. Alors c'était très impressionnant parce qu'ils étaient en délire. J'ai jamais vu une foule de figurants autant en délire. Et je dois dire que je sais pas si c'est le meilleur souvenir, mais c'est un souvenir très très fort et vraiment d'exaltation et de folie. Voilà, de folie comme rarement j'ai vu au sein d'un groupe, au sein d'une foule vraiment. Ça c'était impressionnant.
Samuel.
Bon, la scène de rupture avec Stéphane en Afrique du Sud dans les vagues. Vraiment un moment magnifique. En plus, c'était moi ma dernière scène du film et j'en garde vraiment un souvenir incroyable.
Marilyn, on se retrouve très vite, puisque fin novembre, vous revenez pour parler de Follow, qui est une série dans laquelle vous êtes aux côtés de Marie Colomb, Vincent Eden, et qui va sortir sur 13e rue, justement, fin novembre. Donc, on se retrouve le 25 novembre dans Chut, on écoute la télé pour revenir avec toute une partie d'équipe. Ça aussi, c'est un beau projet qui a été primé, prix de la meilleure série, quand même, au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle.
Oui, donc moi, je suis très fière, très contente. Et oui, c'est un beau projet, ambitieux et vraiment, ouais, très beau projet.
Et on se retrouve dans 4 semaines pour en parler.
Oui, absolument.
Merci. Marilyn, Samuel, les projets?
Moi, je prépare mon second film en tant que réalisateur. Voilà, je travaille dessus.
Bon, on en reparle très vite aussi.
Oui, avec plaisir, avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Samuel. Et puis, merci Philippe, en tout cas, d'être passé aussi nous voir. Un peu de mer dans les prochains jours?
Là, je suis à La Rochelle. Hein. La mer est là. Moi, je suis ravi. Je connais bien La Rochelle. J'y ai passé 20 ans pour préparer mes bateaux de course. Donc le Grand Pavois, tous ces beaux bateaux, je crois que je vais peut-être aller faire un petit tour quand même pour rêver un peu quand même, parce que la mer me fait encore rêver.
Vous avez bien raison. Meri en tout cas d'avoir terminé cette spéciale Flow avec nous. Ça sort mercredi au cinéma, on ne le rate pas, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Merci à tous les trois.
Merci, au revoir. Merci.
À partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mon rêve.
Tu as trouvé où ton petit accent, Marie-Chantal?
Vous êtes qui pour dire autant de conneries?
Olivier de Kersauzon pour les intimes.
Il m'a parlé d'une course en solitaire. Arrivez aux Antilles. Je vais la faire, la Route du Rhum.
Arrête de délirer, hein, c'est un truc de mec, la mer floue.
Ça t'énerve que j'ai un bon bateau, hein?
Je la gagnerai avant toi, marin. Ta Rhum.
La mer des marins, la mer des loups de mer, la mer aux furies, la mer sans pitié, loin de tout.
Vous savez qu'on vous appelle la petite fiancée de l'Atlantique aujourd'hui?
C'est la première à mettre le mot marin au féminin!
C'est un merveilleux défi, Mademoiselle Artaud.
Allez, on va recevoir aujourd'hui Hugo Véron et Corentin Millet qui sont avec nous, qui vont nous présenter le film Un vent d'espoir, qui parle notamment de la voile, mais sous toutes ses formes, qu'on soit débutant ou tout simplement qu'on se prépare pour les Jeux Olympiques. Eh bien, justement, avec ce film, on va passer un peu en revue toute l'histoire de la voile et notamment sur La Rochelle en Charente-Maritime. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Qui a eu l'idée déjà de ce film et combien de temps a duré le processus, on va dire, de montage du film, de tournage, etc.
Alors en fait, ça a commencé très simplement maintenant en septembre 2022. J'ai eu l'idée avec Paul Véron, producteur de ce film, de vouloir faire un film à La Rochelle sur le monde de la voile. L'idée est venue, il a fallu monter une équipe technique et j'ai pensé direct à Corentin Millet pour co-réaliser ce film, sachant qu'aujourd'hui nous sommes dans une école en fait d'audiovisuel à Bordeaux. On est en dernière année d'études, donc pour nous ça a été un enjeu en fait conséquent, parce qu'on a dû allier études et en fait à côté de nos études faire ce documentaire, et aujourd'hui on en est très fiers.
Alors vous y suivez des passionnés évidemment de la voile, mais pas que aussi, hein, des enfants qui débutent, qui s'initient, vous suivez aussi des professionnels, ceux qui s'entraînent, on le disait, pour les JO, pour des compétitions sportives internationales. Quel était le meilleur lieu que La Rochelle pour baser votre documentaire? C'est la meilleure ville du monde pour ça.
Bah forcément, La Rochelle, c'est une terre de voile, c'est sûr, mais il faut aussi préciser un truc, c'est qu'avec Hugo et Paul, nous sommes tous les trois à Rochelais. On a vécu un certain temps de nos vies à La Rochelle, donc déjà La Rochelle c'est magnifique pour y faire un film, et on n'a pas pensé à une autre ville parce qu'on était en contact avec Paul qui lui est un sportif de haut niveau au sein du club nautique de La Rochelle. L'objectif était de faire un film sur le club nautique de La Rochelle. Donc à partir de ce moment-là, on a directement attaqué le tournage et l'écriture du film. Avec Hugo, on a réfléchi à une trame de qu'est-ce qu'on voulait raconter pour justement créer le fil rouge en fait de notre film. Et l'idée est venue en fait de partir des plus jeunes, des moins expérimentés, pour aller jusqu'aux plus expérimentés et montrer que la voile c'est surtout un sport de passionnés, avec beaucoup d'humains derrière, beaucoup de rassemblements conviviaux, et c'est ce qu'on y voit dans le film, c'est surtout les histoires de chacun.
Alors, ce film, pour l'instant, il y a quelques avant-premières, il va faire des festivals avant de pouvoir sortir au cinéma. L'enjeu est grand, hein, on le disait, parce que il a fallu effectivement créer un film qui puisse intéresser au-delà des frontières de la Charente-Maritime, bien sûr. Hein.
Exactement, on espère un plus large public, et surtout aussi faire découvrir le milieu de la voile à des gens qui n'y connaissent rien, de teaser la curiosité des gens, parce que je pense que c'est important, et c'est ce qu'on a eu envie de faire avec ce film, en fait.
Oui, puis j'imagine de susciter peut-être des vocations.
Exactement, et en fait, ce film-là, en le faisant, nous, on n'est pas du tout de l'univers nautique, enfin, on fait pas de voile avec Hugo.
Vous avez un regard plus extérieur, du coup.
Exactement, et en fait, c'est ce qui nous a permis de faire un film accessible, avec des termes très simplifiés, pour créer une histoire que tout le monde peut comprendre, sans termes hyper techniques sur la voile, sur la notion du vent. Et en fait, ce film, je pense qu'il peut susciter des vocations, parce que, d'ailleurs, en terminant le tournage, moi, personnellement, j'ai eu vraiment un sentiment de tristesse un peu de le finir, et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien, peut-être à l'avenir, refaire un peu de voile, et de cette fois-ci de tester les supports qu'on a filmés. Et effectivement, ce film, en fait, je pense que si on se met à la place d'un enfant qui, par exemple, a 7 ans, qui commence l'optimiste, et qui voit, par exemple, des gens qui sont allés très très loin dans la voile, comme des gens comme Antoine Albault, qui ont gagné 26 titres de champion du monde, forcément, ça inspire. Comme nous, si on est jeune et qu'on voit des grands réalisateurs, ça nous inspire. Et je pense que les enfants, c'est exactement pareil. Ils s'inspirent des histoires des autres.
La prochaine étape, vous auriez envie peut-être de réaliser ou d'écrire une histoire dans le monde de la voile, mais fictionnée. Quelles sont vos ambitions, en tout cas, à la suite de ce documentaire Un vent d'espoir?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors moi, ce qui est marrant, c'est qu'avec Corentin, finalement, on a co-réalisé. Mais je n'ai pas du tout été formé en fait dans la réalisation. Ça a été un peu l'instinct avec Corentin, et c'est pour ça qu'on a aimé travailler ensemble. Mais je pense que Corentin pourra répondre plus simplement que moi, parce que Corentin est passionné de fiction et fait déjà de la fiction. C'est plutôt lui qu'il faudra en parler.
Corentin.
Alors oui, bah c'est très gentil ce que tu dis, Hugo. Alors effectivement, dans l'école, on a différentes filières. Hugo est en son. Moi, je suis plus en réalisation audiovisuelle, donc on réalise un peu tout type de format, des émissions télé, des clips, etc. Et on travaille sur différents supports que l'on produit. Et effectivement, moi, j'aime beaucoup aussi les films. J'aimerais bien à l'avenir réaliser des films, j'en ai déjà écrit un.
Raconter des histoires.
Mais c'est ça, raconter des histoires. Je suis quelqu'un d'assez rêveur. Et en fait, ce film, pour être tout à fait honnête, ça m'a quand même inspiré de vouloir en faire un film fiction, un petit peu sur l'univers de la voile à La Rochelle, parce que justement, il y avait cette chose dans Un vent d'espoir, où je me dis, j'ai pas raconté tout ce que j'avais envie.
Il porte bien son nom, Un vent d'espoir, c'est l'espoir peut-être de voir perdurer, en tout cas, peut-être au-delà, après votre aventure cinématographique. En tout cas, on va le découvrir bientôt, ça sera donc au cinéma, peut-être à la télé, sur une plateforme, on vous tiendra bien évidemment au courant. On va terminer peut-être par une anecdote que vous auriez à nous raconter sur le tournage qui a pu vous arriver tous les deux. Je te sens très inspiré, Hugo.
Oui. Bah, en fait, c'était la première journée de tournage. Donc, le 18 mars 2023, en fait, on a tourné la PAV foil. Donc, pour expliquer, c'est une régate de planche à voile, mais en foil. Donc, un foil, c'est un support qui permet à la planche à voile
de voler.
De voler, exactement. Et en fait, ce jour-là, bah, il pleuvait, la mer était déchaînée. On est allé en mer, et puis premier jour, on avait les caméras, le matériel son, etc. Puis bah, en fait, il y a eu quelques glissades dans le bateau et un petit vomi. Je ne citerai pas les noms, mais il y a eu des vomis.
Et en termes d'expérience, moi, le meilleur souvenir, du moins que j'ai sur ce tournage-là, c'était la semaine de La Rochelle qui se déroule en mai. J'étais qu'avec Hugo, parce que ce film-là, il faut savoir, c'est qu'on l'a pas fait que tous les trois. Il y a eu 10 personnes en tout qui ont travaillé sur ce projet, à des périodes différentes, parce qu'au final, on l'a fait avec le cœur et sans autant libre. Moi, l'anecdote que j'aimerais bien raconter, c'est qu'on a passé, donc, du coup, tous les trois la semaine de La Rochelle ensemble. Là où il y a différentes compétitions, différents championnats de France. Et je trouve le truc très drôle, c'est qu'on est monté avec Hugo sur un petit bateau, un petit catamaran, homologué deux personnes, pour faire une interview. Et c'est quelque chose, quand on y réfléchit après, qui aurait pu être très dangereux pour le matériel.
Voilà, c'est dit. Un vent d'espoir, on va se quitter avec un petit extrait. La bande-annonce, bientôt, en tout cas si vous voyez passer dans un festival, n'hésitez pas à découvrir ce film sur l'univers de la voile à La Rochelle, mais qui parlera bien sûr à toutes les villes côtières dans lesquelles aujourd'hui on peut faire de la voile en France et ailleurs. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci à vous.
Coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine dans Chute, on écoute la télé, consacrée au théorème de Marguerite, le film d'Anna Novion qui est avec nous. Bonjour Anna.
Bonjour.
Merci d'être là. Nous avons également la chance d'avoir Jean-Pierre Daroussin qui est notre invité. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Et Julien Frison de la Comédie Française. On rajoute toujours cette petite particule quand on est sociétaire de cette grande institution. Bonjour Julien, et honoré de vous avoir avec nous également.
Bonjour. Ça aristocratise les acteurs.
Hein. Ah, complètement. Non, mais on est d'accord.
Il y a une particule après.
Maintenant, même mes parents m'appellent de la comédie. Ils me disent Julien de la Comédie Française, défait la table maintenant.
Et vous nous expliquerez d'ailleurs justement ce que ça apporte d'être sociétaire de la Comédie Française aussi. On va parler d'abord du film. J'ai eu la chance de le voir au festival d'Angoulême. On tombe directement sous le charme de Marguerite. Qui, je dirais, c'est un film d'émancipation en quelque sorte, puisqu'on suit le parcours d'une jeune fille qui est, on va dire, complètement sclérosée par les mathématiques et qui ne passe sa vie que c'est sa passion. Elle ne vit pour rien d'autre que les mathématiques, en oubliant peut-être sa jeunesse, en oubliant effectivement tout ça. Et elle va au détour, on va dire, d'un tour que vont lui jouer certains lors d'une thèse qu'elle va tenter de défendre. Eh bien, elle va tout plaquer et s'émanciper. Mais on va voir que ça va pas s'arrêter là, évidemment, on suivra toutes ces aventures. Anna, on va déjà partir un peu du départ du projet. Comment est né ce projet, le théorème de Marguerite?
Alors ça a été un long chemin, en fait. Il y a des films qui, je crois, mettent du temps à se trouver, d'autres qui s'écrivent très rapidement, et celui-ci a mis vraiment... Il y a un vrai chemin pour arriver aux mathématiques. Alors au début, j'avais envie, en fait, de parler d'un personnage qui était enfermé et qui était coupé du monde et qui se sentait en décalage avec la jeunesse, avec les gens de son âge. Et c'est quelque chose qui, moi-même, m'est arrivé quand j'avais 20 ans, où à un moment donné de ma vie, j'ai été malade et j'ai dû être assez longtemps enfermée. Et c'est
coupé du monde extérieur un peu.
Complètement coupé du monde parce que je ne pouvais pas sortir. Et à un moment donné, j'ai guéri. Et à la guérison, je me suis sentie très en décalage avec les gens de mon âge. Et voilà. Et c'est en partant de ce sentiment-là, de cette sensation, j'avais envie de retranscrire ça sans parler de moi, ce que j'avais vécu. Et donc, c'est comme ça que sont arrivées les mathématiques, en tout cas les grandes écoles dans un premier temps, parce que voilà, c'est des gens qui sont en effet coupés du monde, c'est des gens qui travaillent en vase clos, c'est des gens qui sont préoccupés complètement par autre chose que par la jeunesse comme on la vit, on va dire, dans les clichés. Et en fait, je me suis rendu compte que les mathématiciens étaient des gens absolument passionnés par ce qu'ils faisaient et que les mathématiques suffisaient à les rendre heureux et qu'ils n'avaient pas besoin de vivre autre chose que de travailler absolument toute la journée. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne font absolument que ça, quoi. Et voilà. Et en fait, progressivement, j'ai rencontré des professeurs, des élèves, et je suis arrivée à la rencontre avec une femme qui s'appelle Ariane Mézard, qui est une des grandes mathématiciennes et une des rares mathématiciennes françaises. C'est une femme qui est absolument passionnante, qui m'a parlé des mathématiques comme si c'était une artiste. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'assez différent de tous les clichés que j'avais dans la tête sur les mathématiciens. Et je me suis dit, il y a un vrai parallèle à faire entre la création mathématique et la création artistique. Parce qu'elle me parlait d'une manière où elle me parlait de nécessité, elle me parlait du risque, parce que parfois ils cherchent à résoudre une conjecture ou un théorème pendant 4 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et sans être jamais sûr au final de trouver une réponse. Donc il y a un risque qui est inhérent à la recherche et qui est le même, moi, dans mon métier où on écrit, on ne sait pas si le film va aboutir. Tout ça, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose qui est très proche finalement de mon métier, et donc j'ai eu l'impression d'avoir une relation tout de suite très intime avec elle. Et voilà, et le film s'est mis à se construire avec la rencontre avec Ariane Mézard.
Alors Ella, qui joue le rôle principal, est carrément bluffante, hein, on peut le dire, du début à la fin, elle est juste parfaite. Et au détour de vos deux personnages, Julien et Jean-Pierre, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'évolution au fur et à mesure. Parce que au début, quand même, c'est à plat les mathématiques, vous n'y êtes pas pour rien tous les deux. On va parler de vos personnages. Jean-Pierre, pour commencer, comment on pourrait le définir, ce personnage ?
Ben, c'est un espèce de père supérieur du couvent. C'est-à-dire que, effectivement, ces élèves, là, se consacrent à leur passion et à leur foi, qui sont les mathématiques. Et lui, voilà, c'est une espèce de recteur qui dirige. C'est un directeur de thèse, mais c'est aussi un directeur de conscience, c'est aussi un directeur de pas mal de choses pour ses élèves, qu'il couve, de façon générale, mais, s'il y en a un qui déçoit, eh bien, tant pis pour lui. Il est assez dur, c'est vrai. Ces gens qui font des mathématiques dans les écoles, tout ça, ils sont entraînés comme des champions. Il faut passer des tas d'obstacles, des tas de caps, il y a une compétition permanente entre eux. Donc, ils sont élevés dans un esprit de championnat, finalement. Ce directeur de thèse, voilà, elle n'a pas prouvé tout à fait le niveau nécessaire. Elle a fait une erreur. Bon, c'est sûr qu'elle est douée, on sait qu'elle est douée, mais bon, elle a encore des faiblesses du côté de la maturité, on va dire. Voilà, elle n'est pas encore, vous savez, c'est comme dans les centres de formation de football, un truc comme ça, il y en a plein qui sont très très forts, et puis à un moment donné, il faut avoir un petit truc en plus. Ben, elle l'a pas, donc voilà, bon, elle va aller travailler autrement ailleurs. Elle le prend très mal, et évidemment, je suis un petit peu responsable de la façon dont je braque son orgueil.
On a surtout peur aussi que le maître a peur que l'élève la dépasse aussi. Il y a aussi, on sent certaines craintes chez ce personnage.
Alors il se trouve que effectivement il connaît sa qualité, il connaît sa capacité et sa force dans les mathématiques. Il sait que c'est possible. En tous les cas, à un moment donné, il comprend que ça serait peut-être possible qu'elle le dépasse, oui. Et jusqu'à présent, elle était à son service d'une certaine façon en rédigeant sa thèse. Là, elle risque de lui échapper aussi. C'est un peu le danger qu'il y a.
Ça s'appelle le théorème de Marguerite. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après. On va parler du personnage qu'interprète Julien Frison et également. On écoute et on revient juste après avec vous.
Je m'appelle Marguerite Hoffmann, j'ai 25 ans et je suis en dernière année thèse de mathématiques à l'UNS. La conjecture de Goldbach, c'est l'un des problèmes non résolus les plus importants en mathématiques.
Ça va ? Pas trop stressée, ma fille chérie ?
Je suis en pleine relecture, là.
J'ai pas compris ton calcul de la constante C. Tu peux pas chasser K, N et delta simultanément?
En effet, ça invalide tout votre raisonnement. Votre départ précipité a fait sensation. En ne terminant pas votre thèse, l'école va vous réclamer le remboursement de vos 4 années de salaire.
Je ne reviendrai pas sur ma décision.
T'apprends pas le catalogue par cœur quand même?
Si.
Vous n'avez pas payé le loyer de son massif. Hein.
Comment tu comptes réunir 1000 euros avant samedi?
M'agence.
Je vous trouve des parties, je prends 20%.
M'agent.
Tu peux comprendre que j'ai peur pour toi, que je puisse m'inquiéter après tout ce qui s'est passé?
Tu t'inquiéteras toujours. C'est pour ça que c'est plus facile de te mentir.
Faut être solide pour travailler sur Goldbar. C'est un problème labyrinthique.
Je rêve, ça veut dire n'importe quoi là. J'ai trouvé le dernier mouvement.
C'est une nouvelle méthode, ça a jamais été fait.
Il est magnifique. Il faut absolument que je te le montre.
Le théorème de Marguerite, c'est notre coup de cœur ciné. Ça sort mercredi dans les salles. Julien Frison, on va parler également de la comédie française. On va parler de votre personnage aussi, Julien. Un personnage un peu totalement dévoué qui travaille avec le personnage justement de Jean-Pierre Darroussin sur des résolutions, sur comment faire avancer des thèses en mathématiques et qui tout doucement va se prendre aussi un peu d'affection pour le personnage de Marguerite. C'est ce qu'on va découvrir, toute l'évolution au fur et à mesure.
Donc le personnage de Lucas, il est complètement en contrepoint de celui de Marguerite parce que évidemment, donc on est avec Marguerite tout le film, donc une mathématicienne dans un monde d'hommes, dans un monde où il y a exclusivement 99% de l'amphi qui est masculin, le chef de thèse c'est un homme. Donc on a un personnage qui est totalement, pour qui c'est compliqué de faire des mathématiques, pour qui ça représente tout. Et à côté de ça, on a ce personnage de Lucas, pour qui c'est pas facile, parce qu'à ce niveau-là, évidemment, c'est toujours extrêmement compliqué, ça demande de l'abnégation totale, ça demande tout son temps, toute son énergie, mais c'est quelqu'un pour qui c'est beaucoup plus facile. Les rapports humains, c'est beaucoup plus facile. C'est quelqu'un qui se laisse porter, qui sait ce qu'il veut, mais qui se laisse, enfin, qui va là où les opportunités s'offrent à lui. C'est le personnage de Jean-Pierre Werner va le chercher à Oxford. C'est un étudiant brillant qui est à Oxford, qui se retrouve là, il rencontre Marguerite et on a un peu envie de lui mettre deux claques à ce personnage au début parce qu'on c'est trop facile socialement. On est très loin des clichés des mathématiques et en même temps on est sur quelque chose de très réel parce qu'avec Anna on a contacté dès le début, donc c'est Cédric Vinani qui nous avait dit appelez Alessio Figali, il va vous éclairer sur Lucas et on a fait un Skype avec. Alessio Figali, c'est un génie des maths, hein, c'est un médaillé Fields, donc c'est mondialement star des mathématiques. Et on a fait ce Skype avec lui, et ça a éclairé plein de choses, parce que effectivement, c'est quelqu'un loin de tout cliché. C'est quelqu'un pour qui on sent que socialement, c'est facile, et pourtant, c'est un mec absolument brillant. Et on est parti de là, et ce qui a été chouette, c'est de créer, en contrepoint avec Marguerite, cette rencontre, et la façon dont ils vont se rapprocher tous les deux, parce que on a deux personnages qui sont très différents et en fait qui vont...
Est-ce que ça débordera des mathématiques? C'est ce qu'on va voir. Évidemment, c'est tout l'enjeu du film. Tous les deux sont passionnés, vont tenter effectivement de dépasser le maître, c'est le cas de le dire. Où c'est Anna, vous avez trouvé là, pour le coup, qui est incroyable, qui porte le film du début à la fin, qui est sur tous les plans. Avec sa tête de première de la classe, on se prend d'affection tout de suite, justement, pour ce personnage de Marguerite.
J'en avais pas mal entendu parler à droite et à gauche, parce que voilà, quand on est en casting, on en parle un petit peu aux collègues, à d'autres réalisateurs, à des directeurs de casting, et son nom est apparu. J'en avais déjà, moi, à un moment donné, rencontré déjà beaucoup, et puis il y a eu une autre version de scénario qui a fait que j'ai recasté de nouvelles personnes. Et là, j'ai décidé de voir assez peu de comédiennes. Et donc, elle était un peu en tête de liste, je ne sais pas pourquoi, je pressentais que...
Marguerite, c'était elle.
Ouais, je le pressentais et je l'avais vu dans Grave, mais le rôle est extrêmement différent. Et je l'avais vu aussi dans une série qui s'appelle Freud, qui j'avoue est une série qui ne m'avait pas énormément plu, mais je trouvais que ce qu'elle jouait n'était pas simple et était en plus très différent de Grave. Donc je me dis, tiens, on dirait que c'est quelqu'un qui sait s'adapter au rôle et sait proposer des choses très différentes. Et donc, c'était pendant le confinement, on a pris un café chez moi. Et en fait, il y a eu quelque chose d'assez évident parce que j'ai senti assez vite qu'elle avait quelque chose d'en fait de profondément proche de Marguerite. C'est quelqu'un qui a un engagement, un sérieux, qui est proche de celui de Marguerite. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de second degré, je dois avouer. Quand on lui fait une blague, elle ne, souvent ne la comprend pas. C'est quelqu'un qui aime aller.
Julien, il y en a fait. Je sais pas pourquoi.
C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'aller au bout des choses, et même quand elle est au bout, ça ne suffit jamais. C'est une grande travailleuse, et elle a quelque chose d'une légère forme d'étrangeté qui pouvait aussi la rapprocher de Marguerite. Et je crois qu'en fait, il y a une vraie rencontre qui s'est faite, pour le coup, très progressivement, parce qu'avec Ella, à partir du moment, en fait, moi, je lui ai proposé de jouer Marguerite sans lui faire passer d'essai, alors que j'avais fait passer énormément d'essais avant et je n'avais choisi personne. Et elle, je lui propose de pas faire passer d'essai. Donc elle trouvait que j'étais un petit peu presque kamikaze, quoi, de lui proposer le rôle sans lui faire passer d'essai. Et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui l'a touchée là-dedans. Et elle a voulu ne pas me décevoir. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui, comme ça, a scellé notre lien d'une manière assez forte. Et progressivement, on a travaillé le rôle pendant à peu près 4 mois, où elle venait chez moi pendant des après-midi, et on discutait beaucoup du rôle. Parfois, on répétait, mais on discutait. Et en fait, Marguerite s'est mise à apparaître progressivement, et s'est mise à exister à côté de nous. Et c'est vraiment nos discussions qui ont rendu Marguerite vivante, et ça a profondément créé une vraie forme de confiance lors du tournage avec Ella, tout le travail que nous avions fait en amont. Plus, elle travaillait aussi avec Ariane Mézard, la mathématicienne dont je parlais, et qui avec qui elle travaillait toutes les équations, parce que voilà, c'est tout un langage, il fallait que ce langage, cette langue, il fallait qu'elle soit extrêmement... fallait que ce soit facile pour elle d'écrire, il fallait que ce soit naturel. Donc il fallait pas qu'on puisse douter une seule seconde que c'était une mathématicienne et que ce qu'elle écrivait, elle comprenait évidemment tout de ce qu'elle écrivait. Donc il y a eu un vrai travail, plus le mahjong. Elle prenait aussi des cours de mahjong toutes les semaines. Donc enfin, c'est vraiment, c'était presque un rôle, comme on dit un peu à l'américaine, quoi, où on travaille énormément en amont pour définir le rôle et pour que le rôle entre en elle, quoi.
Vous allez voir que Anna Novion, elle a du pif. Je peux vous le dire, parce que vous allez voir mercredi le résultat au cinéma. C'est absolument incroyable. On termine par vos projets à tous les deux, Julien et Jean-Pierre, pour les mois à venir, pour cet hiver. Qu'est-ce qui vous attend, Jean-Pierre?
Oh ben, moi, c'est assez simple. Là, je viens de tourner un film avec Robert Guédiguian. On est en train de finir le film. Et le 6 décembre, il y a le film qu'on a tourné l'année dernière avec Robert, qui s'appelle La fête continue, qui va sortir. Et puis autrement, bah, je fais aussi un petit peu de tournée au théâtre en ce moment, pour la pièce que j'avais créée l'année dernière, qui s'appelle Le principe d'incertitude, de Stephen Simmons. Et voilà, je suis en tournée au théâtre en ce moment.
Voilà, un hiver bien occupé, en tout cas, le 6 décembre, on retournera du coup au cinéma. Au revoir Jean-Pierre Daroussin. Julien?
Ben moi, beaucoup de comédies françaises. Une année riche en pièces de théâtre. On commence avec une tournée du Tartuffe, après Lucrèce Borgia, Scapin, et un Macbeth, une création de Macbeth par Sylvia Costa. Et sinon, il y a en décembre Les Trois Mousquetaires, le deuxième volet qui sortira, et une série réalisée par Jean-Zé Lestrade qui s'appelle Sambre. Voilà.
Ben voilà. Tout en simplicité. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous. Le théorème de Marguerite, ça sort mercredi au cinéma. Merci infiniment et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous n'avez pas payé le loyer de son massif, hein.
Comment tu comptes réunir 1000 euros avant samedi?
M'agence.
Je vous trouve des parties, je prends 20%.
M'agent.
Tu peux comprendre que j'ai peur pour toi, que je puisse m'inquiéter après tout ce qui s'est passé?
Tu t'inquiéteras toujours. C'est pour ça que c'est plus facile de te mentir.
Faut être solide pour travailler sous Goldbar. C'est un problème labyrinthique.
Je rêve, ça veut dire n'importe quoi là.
J'ai trouvé le dernier mouvement.
C'est une nouvelle méthode, ça n'a jamais été fait.
Il est magnifique. Il faut absolument que je te le montre.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Candice Renoir, qui fait son grand retour ce soir pour un film événement réalisé par Raphaël Languet, et puis toujours évidemment tenu de main de maître avec notre héroïne Cécile Bois, qui est avec nous en ligne. Bonjour Cécile.
Bonjour à tous.
Qui va nous plonger à 24 heures d'Halloween, et bien déjà dans l'univers. L'épisode s'intitule Des bonbons ou la vie, et on va retrouver toujours avec grand plaisir Candice et Antoine dans de nouvelles aventures, et une aventure, des aventures effrayantes, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir être regardé par toute la famille, ça c'est chouette.
Oui, c'est ça, il y a un dosage d'un petit peu tout. C'est un épisode qui a été vraiment écrit pour Raphaël,
parce que Raphaël adore les films de genre, donc il s'était déjà un petit peu fait la main sur un épisode d'Halloween dans le château, où c'était un espèce de Cluedo qu'il avait transformé un peu en épouvante, et ben là on retombe dans les légendes d'Halloween. Voilà, c'est un exercice qui lui plaît, et puis on a dosé entre la comédie, l'émotion et l'enquête évidemment, et les légendes d'Halloween.
Alors, c'est toujours un cadeau quand la série s'arrête au format série et qu'on vous retrouve comme ça dans des aventures, même de façon ponctuelle, mais une fois ou deux par an comme ça. C'est un véritable cadeau de pouvoir faire des téléfilms événements sur des événements, on va dire, temporels comme là Halloween, mais ça pourrait être pour Noël, pour plein d'autres choses. Et après vos dernières aventures en Corse, on avait tellement peur de pas vous retrouver. C'est vraiment un grand bonheur ce soir hein, de vous revoir.
C'est un bonheur pour nous aussi que nous a offert France 2, donc Anne-Al Metz, qui a accepté l'idée du 90 minutes événement. C'est vrai que c'est assez stimulant parce que l'unitaire nous permet plus de liberté que la série. Sur la série, il faut tenir un feuilletonnant comme ça pendant 10 épisodes, donc l'exercice d'écriture est plus fastidieux. Là, sur des unitaires, on a plus de liberté, on peut s'autoriser beaucoup plus de choses, aussi bien au niveau du perso qu'au niveau des enquêtes. Et puis l'avenir va nous le montrer aussi au vu de ce qui se prépare.
Alors, il est vrai que Candice est rendue donc à la financière. Elle s'y ennuie beaucoup, hein. Ça y change, on va dire, de ses enquêtes d'avant. Et elle va accompagner Antoine choisir des citrouilles sur un marché d'Halloween. Et il va y avoir une disparition d'enfants qui va être au cœur de cet épisode, hein.
C'est ça, l'épisode commence avec la disparition de deux enfants dont la fille d'Antoine. Et c'est vrai aussi que, à travers la financière, c'est pas du tout son credo. Et que la passion de l'enquête la submerge. Et en même temps, la hiérarchie, une fois de plus, et les conventions veut qu'elle ne se mêle de rien. Et c'est forcément pas un personnage qui sait garder sa place. Donc, en parallèle, à la fois dedans et à la fois dehors, en utilisant Antoine et en même temps, en faisant les choses contre lui, elle va essayer de tisser sa propre enquête pour pouvoir réparer son erreur, puisque les enfants en plus étaient sous sa responsabilité.
Elle ne va pas en plus du tout se faire prier hein, pour rendosser un peu son costume d'enquêtrice hein, pour retrouver ses enfants. Hein.
Ah non, elle ne va pas se faire prier. Elle, c'est spontané chez elle et c'est ce qui va valoir quelques moments de comédie, évidemment.
Ah, je dirais presque vital pour elle. Ça, oui. C'est clair, si on oui. Le sent. On va retrouver évidemment ceux qui ont fait le succès de la série, Hélem Japin, mais aussi Olivier Cabassu. On a Lily Fleur-Pointeau également dans cet épisode exceptionnel aussi, dans le rôle de Jennifer. Ali Mariard également, qui va sortir son film, qui n'est pas dans cet épisode, mais qui va sortir son film. Hein. Je voulais le souligner aussi parce qu'on l'embrasse, Ali, mais il va absolument sortir son film au cinéma très, très prochainement. On en parlera évidemment très, très vite. Mais ça, c'est ouais. Un beau projet pour lui, ce qui explique certainement qu'il n'est pas dans cet épisode.
Il était concentré sur son film. Il s'appelle Comme un prince et je crois qu'il sort le 7 janvier. J'ai eu la chance de le voir en avant-première et voilà, c'était très 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 émouvant de le voir réaliser et en même temps se réaliser parce que ça fait longtemps qu'il y a un réalisateur en lui.
Et ben voilà, ça en fait des réalisateurs hein, sur Candice Renoir,
ouais,
mine
vrai.
De rien. C'est chouette hein, ça.
C'est vrai, ce sont des capitaines de bateau en fait qu'on a sur Candice beaucoup, ouais.
Bon, alors une histoire sur Halloween, évidemment, on pouvait pas passer à côté de Jack O'Lantern puisque c'est lui qui a priori aurait enlevé ses deux enfants. Alors ça va créer évidemment des scènes assez cocasses, mais est-ce qu'il y a un souvenir particulier d'une scène où il a été difficile peut-être, soit surprenante ou plutôt très drôle à tourner en tout cas, avec Raphaël aux manettes en plus. Je suis sûr qu'il y a une anecdote à nous raconter, Cécile.
Non, Raphaël est moins drôle quand il réalise que quand il joue. Il est extrêmement concentré sur son film, sur l'aspect technique aussi du film dont il n'a pas à s'occuper quand il est comédien. Quand il est comédien, il a du temps à perdre. Donc, c'est là, en général, que toutes les zones de son cerveau sont polarisées sur le rire et sur faire rire ses camarades pour ne pas s'ennuyer. Alors que réalisateur, il y a toutes les parties de son cerveau qui sont occupées. Donc, il a moins d'espace à partager avec nous, les comédiens. Et sur cet épisode, était assez difficile à mettre en scène parce qu'en plus on était au mois de juin, il fallait faire Halloween en hiver, voilà, donc il a eu plusieurs étapes un peu plus difficiles que sur d'autres réalisations. Ce qui était pas mal, c'est plus un souvenir à la fois un peu onirique et angoissant, qui était celui de tourner dans une fête foraine totalement vide, deux jours, en période estivale en plus, où on avait tous les manèges pour nous, où on avait en plus Eric Bernard qui était dedans, qui faisait une silhouette de clown, donc il y avait quelque chose de très singulier. J'étais avec Quentin aussi, Michael, et on vagabondait tous les trois dans le parc d'attractions. Et il y avait quelque chose de à la fois onirique, à la fois un peu angoissant et en même temps de très exceptionnel parce qu'on n'a jamais, on n'est jamais emmené à être dans un parc nu, quoi, sans personne et sans les manèges qui tournent. Donc c'était un moment assez singulier, assez magique.
Bon, en tout cas, cette aventure qu'on va découvrir ce soir, ce n'est pas un final, on le dit, on le redit, hein, malgré ce qu'il y en a qui peuvent dire ou lire sur les réseaux, mais ce n'est pas un final, puisque a priori, il y aurait déjà une nouvelle aventure qui est en train d'être écrite. Donc un prochain cadeau en perspective pour nous les fans.
Absolument, oui, on a cette chance-là, il est en cours d'écriture et on espère le tourner soit à la fin de l'hiver, soit au début du printemps. Toujours Antoine, qu'on dit, c'est le retour d'une partie de mes camarades. Voilà.
Génial. Et si on devait te proposer, Cécile, le retour de format série, vu le succès, tu dirais oui, tu voudrais faire peut-être un peu moins d'épisodes?
C'est une discussion que j'ai déjà eue avec la production, avec la chaîne. C'est une idée qui m'a été déjà soumise avec la possibilité de la faire. J'ai décliné parce que j'en suis sortie, pas pour y revenir, en tout cas pas maintenant et pas dans les mêmes conditions qu'avant. C'est quand même, disons, de mes vies, 7 mois sur les routes. C'est physiquement difficile et surtout ça m'empêche de vivre aussi d'autres aventures que j'ai envie de vivre maintenant. Et en même temps, garder Candice comme je le fais sous cette forme-là, c'est à chaque fois continuer à savourer le bonbon dans les meilleures conditions, quoi.
Mais oui. Exactement. Et puis pour nous aussi, je t'avoue, le fait de garder ce plaisir justement intact à tourner des aventures un peu moins régulièrement, on va dire, mais de temps en temps de façon événementielle, c'est un vrai plaisir pour nous aussi. Justement, ça fait un beau crochet. Tes projets, Cécile, on va te voir 2024. J'imagine qu'il y a plein de choses qui sont en train de se dessiner dans lesquelles on va te voir prochainement.
Oui, je vais partir pour Lille pour tourner avec Éric Métayer, un film où je serai très bien accompagnée avec Marc City et Odile Villemain, voilà, qui est un drame. Je vais basculer dans le drame. Je suis assez impatiente. C'est une très très belle écriture. Et puis après, je vais enchaîner en début de l'année normalement avec une comédie. Voilà, une comédie familiale, on va dire. Voilà, avant de continuer sur Candice et d'autres aventures qui sont en cours d'écriture en ce moment. Voilà.
Eh bien écoute, on reste connecté. Merci infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Des bonbons ou la vie, c'est ce soir. Candice Renoir, Le Grand Retour pour un épisode exceptionnel autour d'Halloween. Ça tombe bien puisqu'on est à la veille de cette fête. Et on va savourer évidemment notre plaisir à 21h10 sur France 2. Merci et à bientôt.
Merci Alain.
Non, attends, c'est pas possible.
Suzanne, pas de caprice, pas de caprice.
Je vais les emmener au bonbon.
Je suis sûre que tu es une petite gourmande.
Ah bon. Lundi prochain, Candice Renoir, inédit.
Suzanne, Nathan.
Qu'est-ce qui se passe?
Les enfants ont disparu.
Suzanne,
et Nathan, il est où?
C'est Jack qui l'a pris.
C'est qui Jack?
Satan est mort, nous.
Les cristaux, les bougies, ça pleure de satanique, non?
Il y a un truc.
Juste vous ouvrir à la possibilité que des forces inconnues sont à l'œuvre.
Cette année, Halloween, c'est un peu surfait. Candice Renoir, lundi prochain, 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Sophie Cross qui fait son grand retour pour une saison 2 et des épisodes inédits à partir de demain sur France 3. Quelle joie pour nous de retrouver Alexia Barlier qui est avec nous. Bonjour Alexia.
Bonjour Alain, merci de m'accueillir à nouveau pour cette saison 2.
Écoute,
c'est un plaisir de la saison 1 avec toi.
Mais
ouais. Ouais, exactement.
Quelle aventure. Et franchement, quand on voit qu'en plus on vient de revoir la saison 1 pour notre plus grand plaisir et qu'elle termine en plus en tête des audiences, Sophie Cross est vraiment en train de s'installer durablement dans le cœur des spectateurs.
On l'espère, parce que je prends beaucoup de plaisir à défendre ce personnage et raconter son parcours émotionnel et sa recherche acharnée pour son fils. Et aussi, on s'entend tous très bien avec nos partenaires de jeu, tous les acteurs. Donc, on espère avoir l'occasion de se retrouver à nouveau pour d'autres épisodes dans le futur.
Et oui, alors pour ceux qui n'auraient pas vu les 3 épisodes qui viennent d'être rediffusés de la saison 1, Sophie Cross se fait enlever son petit Arthur, justement. Enfin, est-il enlevé? En tout cas, c'est ce qu'elle va essayer de découvrir au fil de cette saison, jusqu'au moment où, à la fin de cette première saison, elle a cru reconnaître Arthur, et c'est le petit Sébastien qui vont réussir à sauver in extremis des griffes de Céline Chassagne. Enfin, un nom qui arrive et qui va être un peu le fil conducteur de cette deuxième saison qui arrive, hein, Alexia.
Oui, tout à fait. C'est une vraie piste à la fin de la saison 1. On avance vraiment sur ce qui a pu arriver à Arthur. Effectivement, il semblerait qu'il ait été enlevé et que c'était pour le revendre à d'autres parents potentiels. Enfin, tout un réseau de kidnapping d'enfants. Et on a ce nom de cette femme qui aurait participé au kidnapping de mon fils Arthur. Donc c'est une vraie piste qui est enfin solide et qui nous donne des choses concrètes et un vrai espoir de retrouver notre fils. Mais effectivement, à la fin de cette saison 1, on pense qu'il s'agit d'Arthur, mais c'est un autre petit garçon qui avait été enlevé, qui va pouvoir retrouver ses parents grâce à nous. Mais nous, il faut, c'est pas encore le cas.
Et puis, évidemment, il va y avoir des enquêtes à mener en parallèle avec Thomas Jouannet, hein, qui joue le rôle de Thomas Leclerc, et puis Cyril Lecomte, hein, toujours aussi brut de décoffrage dans le rôle de Gabriel qu'on va découvrir. Il y a toute une équipe d'enquêteurs qui va devoir, pour ce premier épisode, eh bien enquêter sur un bibliothécaire qui cachait bien des choses. Hein, on a l'impression quand même.
Oui, qui est retrouvé mort dans des circonstances un peu étranges, avec beaucoup d'argent autour de lui, beaucoup d'espèces, des billets autour de lui, ce qui soulève plein de questions de savoir d'où ça vient. Enfin voilà, c'est une enquête très dense et très intéressante, comme c'est les écrire Paul Piedefort, notre scénariste. Et effectivement, en même temps de cette enquête qui se passe aux universités, il y a cette quête de Sophie pour retrouver son fils. Et donc voilà, c'est sur les deux fronts et les deux enquêtes avancent. Des rebondissements, des espoirs, des déceptions. Enfin voilà, l'enquête pour son fils est plus développée dans cette saison 2. Je pense qu'elle va vraiment capturer le téléspectateur.
Ouais, et puis se mêle aux enquêtes, voilà, c'est vraiment ce fil rouge. Et puis après, il y a des enquêtes dans chaque épisode, des enquêtes bouclées pour le coup. Mais c'est vraiment le fil rouge, hein, la recherche de son fils. Alors, le retrouvera-t-elle, hein, en tout cas à la fin de cette saison 2? On ne sait pas, c'est ce qu'on va découvrir en tout cas au fur et à mesure des épisodes. Alors moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a quand même quelques touches de comédie aussi. Il y a besoin, hein, parce que dans ces touches de tension aussi. Et alors, la comédie, elle est amenée par ces deux bleus, ces deux étudiants qui essayent en fait de mener l'enquête à votre place, hein, à la bibliothèque. Et ils m'ont vraiment fait rire, hein, ces deux bras cassés, ces deux étudiants qui ont essayé de mettre tout en place pour que la scène de crime ne bouge pas, soit nickel. En fait, ils ont fait tout de travers, quoi.
Quand on arrive sur la scène de crime, ils ont soi-disant sécurisé, protégé la scène de crime, un peu à leur façon, avec les séries qu'ils ont vues, les séries policières. Ils sont vraiment drôles tous les deux et les deux acteurs sont superbes. Donc on s'est vraiment amusé à construire toutes ces séquences ensemble. Et c'est vrai que Sophie Cross, c'est lourd émotionnellement, ouais. Le parcours de Thomas et Sophie pour retrouver leur fils. Il y a rien de pire que de perdre son fils qui soit enlevé. Donc ça c'est vraiment lourd. Donc c'est important d'avoir aussi en parallèle d'autres personnages qui viennent apporter un peu de légèreté et de l'humour à la série pour que ce soit quand même un moment émouvant mais agréable et divertissant pour le spectateur. Donc je pense que c'est vraiment réussi dans cette saison 2. Encore plus que dans la saison 1, il y a aussi tout un ressort comique entre Amina de Ken et Fred Fontaine, nos deux autres lieutenants,
ben oui.
Et Cyril Lecomte. Et ça, c'est vraiment, il y a des moments bien croustillants entre tous. Et en même temps, tout ce côté plus dramatique et profond et intense amené par Thomas et moi dans la recherche de la fille.
Ouais, j'aime
et
bien aussi.
Nos guests, bien évidemment, qui...
Ah ben oui, on a Nadia Fossier dans le premier épisode là que vous voyez dans Un si grand soleil et on a Nadia qui vient faire justement un guest dans ce premier épisode qu'on adore aussi Nadia, on l'embrasse d'ailleurs.
C'est un plaisir de l'accueillir sur notre série.
Eh ben écoute, en tout cas, moi je suis sûr que tu prends un plaisir fou et sans évidemment nous dévoiler quoi que ce soit, Alexia, sur la fin, est-ce que c'est bouclé ou est-ce que tu aimerais en tout cas ou est-ce que l'équipe commence déjà à travailler sur une troisième saison?
On aimerait tous faire une troisième saison parce que on est attaché à nos personnages, on s'entend tous très bien et c'est une série de qualité dont on est fier. Donc on prend du plaisir sur le tournage et on a l'impression que le public prend du plaisir à la regarder. Donc on espère une saison 3. Je sais que c'est un désir de la production et de la chaîne, mais ça dépendra des audiences. Donc là, ils réfléchissent au scénario et à ce qui pourrait se passer dans une saison 3, mais ça dépendra si les téléspectateurs sont au rendez-vous dans leurs écrans le 31 et les deux mardis qui suivent ou pas. Donc on verra. Mais c'est tout à fait possible.
Mais ils seront là. Donc ça veut dire que la fin de la saison 2, il y a quelques ouvertures qui peuvent laisser entrevoir en tout cas une suite à Sophie Cross et aux aventures de Sophie et de Thomas notamment qu'on aime suivre évidemment.
Exactement.
Et puis dis-moi Alexia, tu es en plein tournage. Alors merci de nous offrir ces quelques minutes. C'est encore plus précieux quand voilà une comédienne est en tournage et qu'elle nous offre quelques minutes entre deux scènes puisque tu es sur Tout la saison 2 pour OCS, une série qu'on a découvert justement il y a maintenant plusieurs mois sur OCS. Et donc là tu es en tournage de la saison 2 hein, déjà.
Exactement, je suis retournée à Toulouse. On a commencé le tournage il y a une semaine. On a 6 semaines de tournage. Je suis ravie de retrouver ce personnage de Jane, cette espionne américaine qui se fait passer pour une prof d'aérobic. C'est une série qui est basée dans les années 80 et qui est vraiment drôle. c'est du 10 fois 20 minutes sur la plateforme OCS. La saison 1 a vraiment cartonné sur la plateforme. Je crois que c'est la série OCS signature qui a été le plus finie. Donc voilà, on tourne cette saison 2. Elle est vraiment drôle et en même temps, il y a des vrais moments d'émotion aussi, notamment amenés par le personnage de Jane. Et pour juste vous donner des petites infos sur cette saison 2, il y a toujours de l'aérobic et j'ai un collègue des États-Unis qui me rejoint et qui vient aussi donner
du piment
à cette saison 2. Ouais, du piment. Donc il y a deux Américains maintenant à Blagnac dans la banlieue de Toulouse. C'est vraiment chouette. Donc à regarder aussi dans quelques mois sur OCS quand ça sortira.
Eh ben écoute, on se passera un coup de fil à ce moment-là. Tiens, ça sera l'occasion de savoir en attendant le retour de Sophie Cross saison 3. On sera là aussi, évidemment, ma chère Alexia.
Merci beaucoup Alain.
On t'embrasse, on te dit à très vite en tout cas. Et puis on ne rate pas la saison 2. La suite tant attendue de Sophie Cross, ça démarre demain soir et c'est à 21h10 sur France 3 pour le premier épisode inédit. Et puis le 7 et le 14 novembre, vous découvrirez les deux autres épisode. Merci et à très bientôt.
Merci Alain, bon visionnage à tous. Au revoir.
Ton fils, il est là. Alors ne t'arrête jamais de le chercher.
Arthur ! Si t'avais pas appelé ce jour-là, Arthur serait encore avec nous.
Cette femme est recherchée pour enlèvement. Si vous avez la moindre information sur elle, merci d'appeler ce numéro.
On va tout repasser au crible. On lâche rien. Je vous fais une promesse. Je ne partirai pas avant d'avoir retrouvé tous les enfants.
Ça finira jamais. J'ai pas envie qu'on s'éloigne encore.
Je devrais m'excuser de faire le maximum pour retrouver mon fils.
Arrête. T'as aucune excuse.
Céline ! Méchant !
Ok, Perkis, j'appelle le proc, on y va.
Tu vas pas t'en tirer comme ça.
Tu dégages !
Ce sang sur ma main, c'est le tien.
C'est dingue comme parfois la vérité peut littéralement vous crever les yeux.
Elle est où ?
Parce qu'elle est partie enquêter en douce sur l'affaire Chassagne. 3 ans qu'on se connaît, 3 ans qu'on se voit, et vous nous mentez. Vous nous avez vu souffrir et vous avez rien dit.
Allez, vous bougez pas, on termine l'émission dans un instant avec Éléonore Bernheim, Tom Darmon et Margot Aguilar. Surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Tu veux que je t'apprenne, la vie ça ne s'apprend pas. Car elle est fantastique et cruelle à la fois. Si tu as de la veine, elle te sourira. Laisse passer les critiques et ne t'arrête pas. Des bonheurs et des peines, des larmes quelquefois. Il n'y a rien d'autre à faire que de s'aimer, crois-moi. La vie est une fête et ne t'y trompe pas. Relève bien la tête et aie confiance en toi. N'attends pas, vite ta vie, vite tes nuits. N'attends pas, vite tes moments. N'attends pas, vite ta vie, vite tes nuits. Mais attends avant de devenir grand. Mais attends avant de devenir. Qui t'emmène vers l'avenir là-bas. Si tu es à la traîne, je serai toujours là. Ce que t'as dans la tête, fais-le, n'hésite pas. Ne bats pas en retraite, t'as tout le temps pour ça. Apprends les bonnes manières, côtoie pas les méchants. Si on te fait des misères, je serai là tout le temps. Choisis le bien sur terre, petit à petit le temps. Forge ton caractère, voilà tout ce qui t'attend. N'attends pas, vite ta vie, vite tes nuits. N'attends pas, vite tes moments. N'attends pas, vite ta vie, vite tes nuits. Mais attends avant de devenir grand. Mais attends avant de devenir grand.
Dis-moi ce qu'il faudrait faire.
tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé.
Salut, c'est Lola Devers. Moi, chaque semaine, j'écoute à la Jeanne dans Chute, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler de Mort sur la piste, hein, le téléfilm événement sur France 3 avec Eleonore Bernheim qui a eu une énorme chance de tourner. Jason Priestley qui est à l'affiche également de ce téléfilm tourné au Mans. Bonjour Eleonore et merci d'être avec nous une nouvelle fois.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Alors écoute, tu sais qu'on est fidèle de tes aventures dans l'art du crime, mais alors là, c'est une toute autre aventure qui t'attend sur les circuits du Mans et aux côtés de Jason Priestley. Une rencontre improbable là pour toi.
Alors vraiment improbable. C'est-à-dire que si quand j'avais 14 ans, quand je regardais Beverly Hills, on m'avait dit, tu vois lui là, le Brandon, un jour tu vas tourner avec lui. J'aurais dit, Brad Pitt, oui peut-être, c'est très très très, ça me paraît loin, mais quand même, on ne sait jamais. Mais Brandon, jamais, c'était vraiment aux antipodes de tout, enfin, voilà, à l'autre bout du monde, une série télévisée, enfin, tout était à l'opposé de ce que je pensais pouvoir m'arriver, et voilà, ça m'est arrivé, et c'est entre autres pour cette raison que j'ai fait ce projet, parce que je me suis dit, c'est pas...
Tu peux pas passer à côté.
Il faut vraiment honorer ce truc-là, quoi.
Alors, l'histoire en quelques mots. Tu peux nous planter un peu le décor.
Ouais, alors c'est aussi aux antipodes de l'art du crime, donc... En revanche, c'est quand même un binôme, évidemment, sinon ce serait pas marrant. Donc c'est une flic française qui vit au Mans, qui est une femme seule, célibataire, qui élève seule sa fille, son adolescente, qui est quelqu'un de très 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 terrien, sans détour, quoi, assez frontal comme ça. Qui va mener une enquête avec un flic de la crime de Los Angeles qui est là en stage d'observation, Jason Priestley, qu'on lui a collé et qui va avoir des méthodes pour le moins pas du tout académiques. Et donc, il va y avoir des petites difficultés d'accordement entre les deux qui finalement, évidemment, tout ça va s'avérer fructueux. C'est un crime qui a un lien avec la course automobile. Et voilà, c'est dans ce milieu-là. Et lui, c'est le personnage de Jason. C'est un type qui est un ancien coureur automobile, qui a eu un très grave accident de voiture et qui est devenu flic après ça. Et il se trouve que Jason, je ne sais pas si les gens le savent, mais ça a été un coureur automobile aussi et qui a eu aussi un très grave accident de voiture. Très, très grave, vraiment. Voilà, donc la coïncidence est assez... Et assez dingue. Il y a des parallèles qui sont assez dingues entre le parcours de Jason et le parcours de son personnage à lui.
Ce qui est assez dingue, c'est voir Jason Priestley justement au Mans. On nous aurait dit Patrick Dempsey, qui est un habitué pour le coup des 24 heures du Mans, intégré justement un film comme ça. Mais là, voilà, c'est assez dingue. Au casting, qui c'est qui vous accompagne aussi?
Olivier Marchal, qui a été une super rencontre aussi. Je le connaissais pas, j'avais jamais travaillé avec lui. On n'a pas beaucoup de scènes ensemble, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un super acteur et un super type avec qui nous avons partagé Jason, lui et moi, de très bons moments de partage. Voilà, il y a Guillaume Faure.
Mathieu Delarive aussi.
Mathieu Delarive, Robbie Skinazy. Ouais, vraiment super. Enfin, il y a toute une troupe, il y a pas mal d'autres acteurs. Avec qui vraiment tous, ça a été formidable de travailler sous la direction de Philippe Dajou, avec qui j'avais jamais travaillé. Il se trouvait que j'avais été jury au Festival de Luchon et on lui avait remis un prix de la meilleure réalisation pour Le Village des Endormis très peu de temps avant. Et je m'étais dit, j'aimerais bien travailler avec ce type parce que j'avais trouvé sa réalisation très nerveuse et intense. Ben voilà, la vie est bien faite, voyez-vous. Jason Priestley et Philippe Dajou, puisque quelques temps après, on a tourné ensemble.
Quel beau cadeau, tout ça. Bon, après, il y a bien sûr l'art du crime aussi qui continue pour toi avec Nicolas Gomme. On te voit régulièrement, tous les ans, pour une immersion dans le monde de l'art. Et puis, Mort sur la piste, donc nouveau polar régional qu'on va découvrir sur France 3. En tout cas, Éléonore, plein de belles choses.
Enfin, régional et international.
Bah oui, évidemment. Ben oui. Bah oui, intrigue au Mans, voilà, mais surtout Jason Priestley, c'est quand même l'événement, ouais, je dois avouer, c'est la classe, ouais. Tu as raison. Bon, merci en tout cas, Léonore, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, merci beaucoup.
On va découvrir cette semaine sur France 3, Mort sur la piste, c'est le film à ne pas rater, Olivier Marshall, Guillaume Faure, Robbie Skinazy, Mathieu Delarive, et bien sûr Léonore Bernheim et Jason Priestley. C'est donc cette semaine, on va se quitter avec un extrait, merci à toi.
Merci beaucoup. J'ai pas trouvé de pièce, je me sacrifie. Oh merci, je t'en voudrais ça.
Alors, vous avez choisi ?
C'est moi qui m'y colle.
Très bien, donc je vous présente le capitaine Ryan Martin, de la police de Los Angeles.
Hi, capitaine Sabrina Nedjar, nice to meet you.
Enchanté Sabrina, désolé, mon français n'est pas très bon, but it's nice to be working with you.
Hello, I'm Julie, nice to meet you too.
Enchanté Julie.
Commandant, je l'installe dans mon bureau ?
Oui, mais vous ferez ça plus tard, on vient de trouver un corps sur le circuit. Pas de bol, pile le jour des essais. Bon, la proc vous attend là-bas, donc ce sera une bonne occasion pour Ryan de découvrir comment la police française travaille.
Allez, on va accueillir aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, l'un des couples phares de la série. Ici, tout commence et on va pas bouder notre plaisir. On va commencer par les filles, parce qu'on est galants, c'est Margot Aguilar qui joue Billy Couder, qui est avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis ton binôme, Tom Darmon qui joue Tom dans la série, l'insupportable Tom, mais l'attachant Tom aussi, l'attachant même je dirais par moment. Comment ça va ?
Eh ben ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous, enchanté.
Merci d'être là tous les deux. J'avais envie vraiment de cette interview un peu duo avec vous, parce que ce couple, on l'a pas vu arriver, ni les uns ni les autres, ce couple improbable qui s'est formé devant nos yeux entre Billy et Tom, qui a pas été comme un coup de foudre, qui a eu du mal à s'assumer. Et puis qui est maintenant, qui est comme sur des roulettes, Margot.
Oui, c'est vrai que c'était pas du tout une évidence, Tom Billy. Je pense que personne n'aurait parié là-dessus. Et ouais, contre toute attente, bah, ça fonctionne vachement bien. Hein.
Alors toi qui es en deuxième année, cette année, Tom, lui, passe en troisième année. Il y a un petit échelon juste. Mais Tom, c'est toujours celui qui va essayer de fouiner, de chercher la merde. Et c'est ça qu'on aime aussi chez ce personnage. Il en faut des comme ça.
En fait, je suis assez content parce qu'on a trouvé un créneau qui permet à Tom de dire ce que les autres n'osent pas dire tout haut. Donc en fait, moi j'étais à la recherche d'un créneau un peu original, parce que c'est ce qui marche dans cette série, c'est si on fait doublon avec quelqu'un, ça fonctionne pas. Et on a réussi à faire un mix de son côté sensible, romantique avec son histoire avec Billy. Et puis par rapport aux autres, c'est toujours quelqu'un qui est un peu, qui est assez cash, qui dit ce qu'il pense. Ça me ressemble un peu, moi j'aime bien.
On avait l'impression même d'un personnage totalement détaché un peu de tout, y compris des situations amoureuses. Et là, vraiment, Billy l'a transformé, quoi. On a vraiment découvert la facette romantique de Tom.
En fait, c'est un concours de circonstances parce que moi, quand je suis arrivé dans la série, c'était mon premier projet et j'avais peur d'en faire trop. J'osais pas trop m'ouvrir, j'osais pas trop y aller, en fait. J'avais peur de jouer faux, je me jugeais énormément. Ça prend du temps aussi, c'est un processus de s'assumer en tant que comédien et puis d'y aller et de prendre confiance en soi et de se dire, ok, je suis légitime aussi pour jouer. Et puis moi j'avais aussi par rapport à ma famille, j'avais une espèce de pas de complexe, mais je me sentais pas forcément à l'aise ou légitime. Et au moment où j'ai commencé à m'émanciper, ils ont décidé de nous mettre ensemble avec Margot. Moi j'y croyais pas du tout, j'ai cru une blague au début, et au final ça a permis de tout mettre en place et puis tout s'est harmonisé et là ça va beaucoup mieux.
Billy, c'est une éternelle romantique, une éternelle amoureuse, une éternelle optimiste. C'est un personnage auquel on s'est attaché tellement vite.
Oui, c'est vrai que Billy, elle est amoureuse de l'amour, hein, vraiment. Que ce soit pour elle ou pour les autres, dès qu'elle voit un couple, elle est très heureuse. Enfin, quand Joachim et Clotilde n'étaient plus ensemble, pour elle, c'était vraiment la fin du monde. Et ouais, finalement, c'est un peu la relation avec Tom, la relation dont elle a toujours rêvé, quoi.
C'est un peu la reine du gossip aussi.
C'est ce que j'allais dire, c'est là où ils se rejoignent, parce que lui, il aime bien aller fouiner. Et ouais, Billy, elle adore les gossips, clairement.
Quand vous êtes arrivés au château la première fois, tous les deux, vous vous êtes dit quoi ? Parce que le décor est quand même relativement exceptionnel. Il y a très très peu aujourd'hui de comédiens qui ont la chance de tourner dans un décor pareil. Mais j'imagine la première fois que vous êtes arrivés pour le visiter, pour regarder ce qui se passait, mais vous avez dû vous dire « waouh ».
Oui, c'est clair que c'était très impressionnant. T'as le château, enfin on arrive, on est dans un château, magnifique piscine, il y avait des fleurs partout, enfin c'était juste extraordinaire. Et ouais, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'endroit où on est et de ce qui va se passer et ça devient réel quoi, parce que juste là c'était des castings, enfin j'avais regardé un peu à la télé, je connaissais pas plus que ça. D'être sur place, on se dit ok, c'est parti, ça commence.
Au moment où on arrive, c'est un bouleversement parce qu'on vient d'être pris, on est tous castés très tard, donc on a la réponse deux ou trois jours avant d'arriver au château. Donc on découvre en fait ce qui nous arrive, on prend conscience du changement de vie qui nous attend. Et c'est vrai que pour des jeunes qui ont 20, 22, 25 ans, d'arriver dans cet univers, de voir ces centaines de personnes qui travaillent et de voir ce décor qui nous dépasse tous, c'est-à-dire ce château si bien entretenu, ces petits décors tout neufs, tout pomponnés, etc. En fait, on est un peu dépassé par l'immensité de l'endroit et du projet, mais en même temps, on se dit qu'il va falloir qu'on trouve notre place. Et chacun prend son rythme, chacun prend son temps, chacun a son rythme. On s'implante et on fait notre place.
Mais une chose importante aussi, vous avez eu quand même le petit truc en plus, tous les deux, parce que autant Lucien, Aurélie, Mickaël, Nicolas, Catherine, eux quand ils sont arrivés, ils savaient pas ce qu'allait donner la série. Ils savaient pas du tout où ils mettaient les pieds, ils savaient pas si ça allait marcher, ça aurait pu capoter et être un échec au bout de 3 mois et la série soit arrêtée. Vous, quand vous êtes arrivés en 2e ou en 3e année, vous saviez le succès de la série, vous saviez ce qui vous attendait, vous saviez aussi ce changement de vie et de statut qui vous attendait. Comment vous êtes apprêtés à le vivre ça, tous les deux?
Moi j'avoue que je me suis pas du tout apprêtée à le vivre et je pense que même encore à l'heure actuelle, même si je suis consciente que c'est un gros succès, je me rends toujours pas compte de l'impact réel que ça a et je m'en suis vraiment rendu compte, enfin j'ai commencé à m'en rendre compte il y a vraiment peut-être 3 mois, je sais plus, j'étais ni dans le sud ni à Paris, j'étais dans une ville en France et on m'a arrêté et je me suis dit putain mais genre même jusqu'ici on m'arrête et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est toute la France, c'est 4 millions de personnes, enfin donc ouais c'est énorme. Mais on peut pas se préparer à ça.
Tu vois, tu disais qu'on a un truc en plus en arrivant parce qu'on est déjà au courant du succès. Moi, je te dirais que c'est peut-être un truc en moins. Parce qu'en fait, j'aurais adoré être là au tout début. J'aurais adoré construire la série, la voir éclore, avoir ce petit stress avant de pas savoir si ça va plaire, de voir le succès. Et il y a quelque chose aussi qu'on n'enlèvera jamais aux personnages historiques, c'est-à-dire que ceux qui ont créé la série... Alors bon, j'ai la chance de faire partie des premiers nouveaux, donc... À mon échelle, j'ai mon petit truc historique à moi, c'est qu'on était attendus un peu comme des... En même temps, on aurait tous adoré être là au tout début. On aurait tous adoré être là au jour 1. Alors moi, je suis arrivé dans cet écosystème. C'est-à-dire que je suis arrivé, ça faisait 8 mois qu'il tournait. Bon, il y avait tous les personnages historiques qui étaient encore là. Mais je sais pas si c'est un truc en plus d'arriver en ayant conscience du succès ou si ça met juste une pression supplémentaire.
Dernière question, vos projets. Est-ce qu'il y a des choses à côté d'Ici Tout Commence qui vous attendent tous les deux?
Moi, pour le moment, je me concentre surtout essentiellement sur Ici Tout Commence. On passe des castings avec les agents et puis voilà.
C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Ça vous occupe bien, Tom?
De la musique aussi. Toujours un peu de radio. Sur une radio concurrente. Mais toujours un peu de radio.
Grande radio nationale. La première radio nationale musicale.
Exactement, la première radio musicale de France. Donc je travaille toujours avec eux. Je continue de réaliser des vidéos pour des marques aussi. Je compose toujours un peu de musique. On verra ce que ça donne. Et puis les castings, beaucoup de castings. Et puis des petites ouvertures aussi avec la chaîne. On regarde un petit peu en termes de télé ce qu'on peut faire ensemble.
Merci à tous les deux. Merci Margot, merci Tom d'avoir été avec nous et d'avoir passé ce moment. On vous dit à très bientôt.
Merci.
Merci à toi, c'était un plaisir, à très vite.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous consacrerons une large partie à la sortie du film L'Abbé Pierre, une vie de combat. Frédéric Tellier, le réalisateur, sera là, accompagné de Benjamin Laverne et d'Emmanuel Berco, qui seront nos invités exceptionnels. On parlera également des retrouvailles de Clem avec Lucie Lucas, son héroïne, qui sera notre invitée. Anne Lenen également sera avec nous pour Master Crime. Bref, plein de surprises.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chute, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays Basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.